Merci Vincent. Alors, on m'a posé une question pendant la pause, à savoir qu'est-ce qui s'effondrait exactement, en fait? Est-ce que c'est la civilisation industrielle? Est-ce que c'est l'humanité? Est-ce que c'est l'ensemble du vivant? Alors, je trouve que c'est une excellente question, bien évidemment. Et la réponse, pour moi, est assez simple, c'est le système industriel. L'humanité, c'est une possibilité. Et l'ensemble du vivant, c'est aussi une possibilité. Mais aujourd'hui, ce qui semble, en tout cas qui me semble inéluctable à la lecture de milliers d'articles scientifiques, hein, je suis un peu un bibliopathe en fait, donc ce que j'aime bien, moi, c'est aller dans toutes ces littératures grises, donc de revues à comité de lecture, de revues scientifiques, et de faire la compilation, la synthèse de tout ça. Et de ce qu'il en ressort, c'est qu'effectivement, on n'arrivera pas à sauver le système industriel. Donc, en d'autres termes, le développement durable tel qu'il est imaginé aujourd'hui est en fait une impasse. Et c'est tant mieux finalement, parce que ce système industriel est toxique pour l'humanité, pour l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Donc, c'est plutôt pour moi une bonne nouvelle en fait, parce que ça veut dire qu'on se dirige vers quelque chose de différent, qu'on doit recréer en fait un nouveau système et laisser s'effondrer le système industriel qui est toxique. Alors ensuite, il y avait une autre, une autre question qui m'est venue à l'esprit à l'écoute de Philippe Pochet. Je lui en ai parlé, donc je me permets maintenant de vous en parler. Et c'est la question du risque. Il parlait du risque climatique notamment. Et il disait que les assureurs évaluaient le risque climatique avec des outils. Et là où je fais le lien avec la complexité, c'est qu'aujourd'hui, justement, le problème, c'est qu'on utilise des vieux outils pour analyser des problèmes complexes. Le climat, le changement climatique, c'est un problème complexe. Et ce que les assureurs font, c'est traiter ce problème complexe comme si c'était un risque comme les autres. Le risque d'incendie ou le risque d'autres risques, le risque d'inondation. Et on traite ce risque avec des outils conventionnels, logiques, cartésiens, rationnels, c'est-à-dire qu'on place les risques sur une courbe de Gauss. Hein, vous connaissez les statistiques, hein, un peu de statistiques, on en a tous fait à l'école. On place ce risque sur une courbe de Gauss. Mais le changement climatique, ce n'est pas un risque comme les autres, parce qu'il porte en lui un risque d'extinction. On le sait, une planète à plus 7 degrés ou plus 10 degrés. On sait bien que nous sommes, en tant qu'humains, pas capables de vivre ça. Et les autres vivants vont être complètement aussi perturbés par de tels changements. Et donc, il faut changer de mode de pensée et d'outil pour pouvoir analyser ce type de risque qui n'existait pas vraiment auparavant, en tout cas au XVIIIe siècle. On n'avait pas pensé à tout ça quand on a créé ces courbes de Gauss mathématiques, hein, ces mathématiques pour analyser le risque. Donc il faut changer véritablement d'outil d'analyse pour y arriver et sortir de cette idée qu'on peut tout contrôler et tout maîtriser. Ce que dans un système complexe, comme je le montrais avec ce grand graphique systémique, hein, où tous les risques sont connectés les uns aux autres, si on modifie à un endroit et on fait une modification à un endroit du système, mais il est clair que ça a un impact à d'autres endroits. Et donc, il nous faut des autres outils. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces outils, ils existent et il faut aujourd'hui s'en saisir.
Super. Justement, je voulais vous lancer tous les trois sur la question qui a été un peu soulevée tout à l'heure par Jean-Philippe, qui est celle de, dans ces métiers-là, d'acteurs de l'éducation en face de publics qui peut-être ont une attente d'expertise, un regard comme de l'éducateur comme étant expert d'une question, comment intégrer cette question de l'incertitude, cette question du je ne peux pas prédire ce qu'il va se passer, même s'il est probable que nous ayons dans cette direction-là, et comment intégrer aussi du coup, tout l'émotionnel qui peut aussi aller avec chez l'acteur de l'éducation, et pas juste chez le public avec lequel il serait en lien. Et tout ça illustre ce que je viens de dire, me dit Maëlle. Super, donc amener le questionnement sur les choix de mode de vie, la gestion des incertitudes, des émotions, et voilà, garder le doute. Donc on a toute cette question, propos nuancés, on a toute cette question de l'incertitude, de l'humilité, du message. Ici, j'ai transmettre un message positif, le changement ne sera pas nécessairement négatif, transmettre la confiance en l'avenir, éveiller la curiosité, le lâcher prise. Donc on est sur toute cette thématique-là, et justement cette thématique de insécurité, confiance, sur quoi j'amène de la confiance, sur quoi j'amène de l'insécurité, et comment je traite avec l'incertitude.
Alors pour commencer là-dessus, moi j'ai envie, face à ces grandes questions, de commencer avec une note positive. Pour moi, dès qu'on est acteur de l'éducation, en fait ces questions-là on les maîtrise. C'est-à-dire que dans tout processus éducatif, quel qu'il soit, le degré d'incertitude est immense. Sauf si vous me dites que vous faites de l'éducation à l'environnement et au développement durable, selon des méthodes standardisées américaines. Leçon numéro 1, avec action numéro 1, ceci, avec tel support, toujours le même, etc. etc. J'imagine que non. Mais donc, en tant qu'acteur de l'éducation, la question du doute, de l'imprévisible dans chaque acte que l'on pose, on la connaît. On fait avec tous les jours. Et donc, quelque part, ça n'est jamais que reconnaître, face à nos publics, ce que nous faisons tous les jours et nos propres limites. J'aime bien l'image, on l'utilise souvent, mais dans tout acte éducatif, qu'on plante des graines, on arrose, mais on ne sait pas très bien ce que ça va donner quand ça pousse. Et quelque part, face aux enjeux sur lesquels vous travaillez en tant qu'acteur de l'éducation relative à l'environnement et au développement durable, c'est pareil que dans toute autre discipline. Et donc, pour moi, la question de l'humilité et du lâcher-prise, elle est intrinsèque à chacun de ces actes éducatifs, quel que soit l'âge d'ailleurs des publics auxquels on s'adresse. Ça fait bien longtemps qu'on a lâché la posture du maître qui sait. Maintenant, effectivement, l'insécurité crée aussi un besoin de réponse claire, rationnelle, rassurante, qui donne confiance, etc. etc. Et peut-être une autre notion qu'on n'a pas abordée dans les questions, qui est celle de l'impuissance. Pour moi, ce qui est fortement insécurisant, c'est le sentiment d'impuissance. Et donc là, c'est comment, dans chacun des actes éducatifs que je pose, je peux amener le public auquel je m'adresse à ressentir là où il a une capacité d'action, une capacité d'agir.
J'ai envie de rebondir là-dessus et de me tourner vers toi, Jean-Philippe, sur justement cette question de donner des réponses qui sont claires, pouvoir peut-être offrir des possibilités d'action. Est-ce que c'est possible dans votre métier? Si oui, et qu'est-ce que tu penses en fait de cette question-là?
D'abord de dire que ce que je vais dire maintenant, je n'en suis pas certain. Ce n'est pas qu'un clin d'œil. Sur la question de l'incertitude et de l'humilité, je crois fort, moi, que pouvoir montrer ses failles, s'il fallait les appeler comme ça, en tout cas de ne pas être dans une posture de toute puissance, parce qu'on a à ce point étudié le sujet qu'on est tout puissant sur le sujet. De pouvoir montrer ses failles nous met dans une posture aussi d'être humain. Nous sommes, nous aussi, avant tout, des êtres humains. Du coup, on se met au même titre que les publics qu'on rencontre. Et on est tous dans le même bateau en tant qu'êtres humains, moi y compris. Donc quand j'ai en face de moi des enfants ou des adultes, quelque part, je crois que c'est mobilisant aussi pour eux de sentir que je suis avec eux dans le même bateau, y compris avec mes failles. Et que peut-être que si ça se trouve, être avec eux dans un bateau, ça peut aussi être mobilisateur. Euh, Et du coup, on cherche ensemble, y compris quand il s'agit de trouver des pistes de solutions, on cherche ensemble vraiment. On n'est pas. Enfin, je crois que c'est d'autant plus efficace d'être dans cette posture de chercher ensemble que d'arriver avec quelque chose qui serait un peu tout fait. Je disais tout à l'heure que ce n'était pas forcément ni souhaitable ni éthique de ne pas laisser de place à l'incertitude. Je crois aussi que si on ne devait parler que de stratégie pédagogique, donc en termes de qu'est-ce qui sera le plus efficace, je crois aussi que ce sera même peut-être plus efficace de ne pas être sûr, en fait, finalement.
Merci. Du coup, j'ai envie de peut-être redonner 2 secondes la parole à Raphaël sur la question, justement, que je voulais illustrer tout à l'heure dans le conte, qui est, c'est quoi la différence entre traiter un problème compliqué et un problème complexe? Et quels seraient les bons réflexes d'animation pour aller vers le fait de pouvoir aborder un problème complexe? Et aussi, peut-être, alors c'est peut-être 2 questions, tu vois si tu prends, si tu prends pas, mais comment est-ce qu'on est à l'intérieur et en dehors du système? Comment est-ce qu'on peut traiter un problème en étant à l'intérieur de ce problème, et est-ce qu'on cherche à en sortir pour pouvoir le traiter?
C'est pas une mince question, ça. Point de vue en 30 secondes. Non, non. Un problème complexe, un problème compliqué, ça c'est vraiment une notion très 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 importante. En fait, souvent, on mélange les 2 termes pour signifier la même chose. Or, c'est vraiment différent. Quelque chose de compliqué, c'est quand il y a beaucoup de parties, un grand nombre de parties, mais qu'on connaît la façon dont elles sont assemblées. Un exemple typique, c'est la construction d'un Boeing 747, où il faut des millions de pièces pour assembler la machine, mais les ingénieurs connaissent exactement le moment et la place de chaque pièce pour faire cet avion. Ça, c'est compliqué. Donc, problème compliqué, solution compliquée, mais qui fonctionne. Un problème complexe, c'est quelque chose, en fait, où il y a des interactions entre parties qui fait émerger un comportement différent. Donc, en d'autres termes, il y a quelque chose qui émerge de l'interaction entre les différents éléments du système. C'est un peu le 1 plus 1 égale 3. Vous avez déjà certainement dû parler de ça. Donc, quand il y a interaction entre 2 éléments, il y a un comportement qui émerge. Alors, des éléments vivants, je dis bien, pas des éléments inertes, bien entendu. Où là, on reste dans le domaine du compliqué. Donc, voilà la différence entre complexe et compliqué. Et le problème de la complexité, finalement, c'est que le comportement qui émerge de l'interaction entre les différents éléments est souvent imprévisible, d'où l'incertitude que l'on a et la difficulté de gérer cette incertitude. Alors pour ça, pour gérer l'incertitude, en fait, les scientifiques se sont aperçus que finalement que l'homme n'avait pas qu'un seul mode cognitif. On nous a éduqués avec la raison dans une logique cartésienne, depuis 400 ans presque, depuis Descartes. On nous a éduqués dans une logique, vous devez être cartésien, vous devez réfléchir, une cause égale un effet. Et c'est ça, vous pouvez déterminer le lien entre les choses. Or, dans un problème complexe, cause et effet sont complètement flous, très difficiles à déterminer. Et l'esprit cartésien n'est pas capable de comprendre ça. L'esprit cartésien sert au domaine du compliqué. Et pour aborder les problèmes complexes, il faut donc faire appel à un autre mode cognitif que vous avez tous en vous, qu'on a tous en nous, mais qui a très peu été développé, c'est le mode intuitif. C'est-à-dire, il y a quelques reliquats chez certains, sans doute chez vous plus que dans d'autres, si vous ne seriez pas touché par les problèmes environnementaux et acteurs de l'éducation relative à l'environnement. Mais donc, c'est l'intuition qu'il faut qu'on redéveloppe, en fait, pour faire face à cette grande incertitude dans laquelle on est. Et développer l'intuition, de nouveau, il y a plein de méthodologies hein, qui ont été développées au cours du temps, et dont une, évidemment, qu'on peut citer, c'est au XIXe siècle, par le philosophe et scientifique et poète Goethe, qui, lui, développait déjà une méthode scientifique basée sur l'intuition. Donc je vous invite à aller un peu explorer ce domaine-là, par exemple. Et lui, ce qu'il propose, c'est vraiment être en contact direct avec l'objet observé. Et de se situer, en fait, pas seulement donc à l'intérieur, d'être fermé, mais de pouvoir sortir de cet esprit cartésien pour avoir une vue plus holistique des choses.
Merci beaucoup. Je vais du coup accrocher ça, parce que ici, dans les groupes de cartons qu'on m'a ramenés, il y en a plusieurs, je vais vous les citer, comme ça vous pouvez aussi les intégrer dans les discussions. Il y en a un qui est toute cette question de, justement, vision systémique, interdisciplinarité, intelligence multiple, et donc comment intégrer ces éléments-là dans des animations. Je vais vraiment aller vers Jean-Philippe. Cette question, c'est, puisqu'apparemment une de ces réponses serait justement de ne plus seulement faire appel à l'intellect et au cognitif, comment j'intègre ces différentes intelligences et comment de là peut-être je peux dégager une vision plus globale, plus holistique, plus systémique, à partir de laquelle je pourrais redevenir acteur.
Je m'excuse si je dis des banalités d'abord. On verra. Je pense à système, je pense à quelques recettes qu'on peut avoir dans la tête. Notamment, d'essayer de s'assurer que dans le discours, le message dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'on fait appel à différents aspects de la situation ? L'aspect environnemental, écologique, et puis l'aspect social, l'aspect économique, les trois tartes à la crème, mais aussi plein d'autres aspects, l'aspect politique, l'aspect philosophique, l'aspect poétique peut-être. Et donc je pense qu'à multiplier ces différents aspects, on a plus de chances d'être systémique. Tant mieux aussi si on multiplie les points de vue. Et on rejoint en ça aussi l'aspect de l'incertitude. Voilà, le point de vue du naturaliste n'est pas tout à fait le même que le point de vue de l'habitant du Nord, qui n'est pas le même que le point de vue de l'habitant du Sud, qui n'est pas le même que le point de vue de ma grand-mère, qui n'est pas le même du point de vue de mon petit garçon qui a 3 ans. Ça peut être parfois très utile et très opérant de se dire, tiens, et si j'étais telle ou telle personne, comment est-ce que j'analyserais ou je ressentirais la situation. Tant mieux aussi si on peut là-dedans voir les effets du temps. Tiens, est-ce qu'on pensait la même chose, est-ce qu'on ressentait la même chose il y a 100 ans quand au moment de la révolution industrielle. Est-ce que le passage du paléolithique au néolithique, cette révolution ne nous amène pas aussi un point de vue sur cette révolution-là ne nous amène pas aussi un regard sur une révolution à faire. Tiens, comment est-ce qu'on imagine la situation dans 100 ans? Et donc dans ce système aussi de voir les effets du temps. Et évidemment, donc pour raccrocher aux intelligences multiples et à toutes les grilles dont on peut se saisir, les différentes formes d'intelligence, les cerveaux, les quatre cerveaux. Tu parlais de la raison, l'empathie, le sensitif, le cognitif, ou la tête, le cœur et les mains. Enfin voilà, toutes ces différentes grilles qui nous amènent varier les types d'apprentissage, les canaux d'apprentissage, pour faire appel à la globalité de la personne. Et donc on ne fait pas que référence à la globalité de la situation ou du sujet qu'on traite, mais on s'appuie aussi sur la globalité de la personne. Alors, je ne sais pas si je suis clair.
Merci beaucoup. Je vais aussi aller vers toi, Quentin, sur cette question de... je vois sur les papiers toute la dimension qui revient aussi de partir du point de vue de chacun, des cadres de pensée de chacun. Tantôt, tu as amené cette question de... on a nos cartes du monde. Et il y a deux choses pour moi qui reviennent du coup, c'est... quelle est la place du vécu, du sensible, de l'émotion dans ces cartes-là ? Sensibiliser, c'est rendre sensible. Et aussi, comment est-ce que du coup, à partir de ces cartes-là, partagées ou pas par le groupe, à partir du point de vue de chacun, ici il y a beaucoup aussi les questions d'expertise du groupe, de faire monter l'intelligence du groupe. Comment est-ce qu'on pense en dehors de la boîte, out of the box, puisque la question de la complexité nous met aussi face à cette question de on ne peut plus faire plus de la même chose. Sinon, on est dans un système qui ne se transforme pas, qui se régule simplement.
Oui, alors, comme Jean-Philippe, mes excuses d'avance si je dis des banalités, puisque j'imagine que dans ce que je vais dire ici... par votre connaissance du terrain, il y en a qui, un certain nombre d'entre vous qui pratiquent déjà ça beaucoup. Pour moi, quand on se pose la question de savoir comment faire avec la carte du monde de chacun, et en particulier dans une logique, alors qu'elle soit éducative jusqu'à révolutionnaire, ça pose la question de comment... En tant qu'acteur, je mets en place un processus de déconstruction et puis de reconstruction. C'est-à-dire comment je peux partir de la carte du monde des personnes que j'ai face à moi, alors je n'aime pas tellement d'ailleurs dire face à moi, mais que j'ai avec moi, et comment est-ce que je peux amener de la déconstruction sur un certain nombre d'éléments de cette carte du monde, tout en respectant les personnes que j'ai en face de moi. Et ça, me semble-t-il, ça passe essentiellement par le mode relationnel, par effectivement la relation éducative qui se tisse entre l'acteur éducatif qui induit et l'acteur éducatif qui reçoit. Mais bien évidemment, quand on est dans cette logique-là, on tombe vite dans quelque chose de circulaire où celui qui induit et celui qui reçoit se répondent et où ce qu'on appelle souvent en pédagogie les apprenants sont en fait eux-mêmes créateurs de savoir chez la personne qui a introduit le processus. C'est la qualité de la relation de confiance notamment, qui va permettre d'entrer dans un processus de déconstruction de certaines représentations, de certains savoirs transmis, etc., etc., et qui va permettre de faire appel à peut-être des savoirs, comme le disait Raphaël, plus intuitifs, plus émotionnels. Et c'est la place de toute cette intelligence émotionnel et relationnel dans le processus éducatif qui est, pour moi, à travailler et à ciseler finement. Et qui fait très peur. Je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui, en matière de pédagogie et de manière générale, c'est pour ça que je parlais aussi de logique révolutionnaire, ça fait très très peur, parce que ce n'est pas cartésien du tout, ça. Et que ça tient plus à la qualité d'être qu'à la qualité de faire.
Merci beaucoup. Je vais repasser par Jean-Philippe. Et puis pour les 5 dernières minutes, j'aurai encore une ou deux questions. Et je vous demanderai aussi de préparer en synthèse ce sur quoi vous avez envie de bousculer le public pour demain. S'il y a quelque chose que vous avez envie de redire à la fin là, pour bousculer, pour se dire « Ok, j'ai envie qu'ils entendent ça au moins avant que je ne parte. » Voilà. Mais Jean-Philippe, tu redemandais la parole, non ? Ou je me suis trompé ?
Je voulais rebondir sur la question de la, enfin sur la, l'aspect de la relation. Pour moi, ça me semble vraiment, vraiment essentiel. Si ça se trouve, pour moi, c'est le point essentiel. Tu parlais de confiance. Vraiment, pour moi, c'est primordial. Je crois qu'il n'y a rien qui se passe sans confiance. Et donc, avant tout, il faut que nous ayons nous-mêmes confiance dans les dispositifs qu'on met. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Parce que si nous n'avons pas confiance, nous n'inspirerons pas confiance. Et donc, c'est là aussi que parfois, c'est très compliqué. Parce que comment être dans l'incertitude, mais en ayant quand même confiance dans ce qu'on met en place. Donc, il faut pouvoir largement assumer cette incertitude que pour pouvoir avoir confiance. Vous me suivez ? Merci. Donc, la relation. Je crois que il y a beaucoup de choses qui passent par l'inscription dans un groupe. Si on se met trois minutes chacun à réfléchir à qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés à cet état de sensibilisation ou de conscientisation sur ces questions, en tout cas pour ma part, je réponds d'une certaine manière que le fait, par exemple, d'être ici entre nous, de sentir qu'on fait, on fait partie d'un tout, là, tous ensemble, là, quelque part, ça nous réchauffe un peu notre petit cœur. Et ça nous fait du bien. Et on se sent aussi reconnus les uns par les autres. On se sent faire partie de quelque chose. Et on se sent valorisé. Nous sommes les gens qui nous inquiétons de l'environnement et on arrive à se créer cette identité-là. Et c'est une identité qui est positive. Que nous pouvons juger comme étant positive, même si elle n'est pas facile à assumer tous les jours, évidemment. Et peut-être que même que le fait qu'elle ne soit pas facile à assumer tous les jours la rend d'autant plus positive. Nous sommes des warriors, nous sommes des combattants qui allons à l'encontre de la marée pour... Et donc, c'est difficile, mais quelque part, c'est valorisant. On rencontre aussi beaucoup de gens qui sont dans des crises qui sont de l'ordre de la crise existentielle ou de la crise d'identité et qui ont besoin aussi de faire partie d'un réseau et qui sont complètement dans de la solitude ou qui ont l'impression d'être en dehors, etc. Et parfois, ils vont évoluer dans leur manière de regarder le monde parce que tout d'un coup, ils vont se sentir bien dans un groupe. Un groupe qui peut être un groupe sensible aux questions environnementales. Y compris quand ce groupe peut avoir des positions radicales, donc complètement en dehors de la boîte. Mais donc, je me positionne comme faisant partie d'un groupe en dehors de la boîte, et donc je suis dans la boîte de ce groupe. Donc j'ai quand même besoin d'être dans la boîte, mais dans la petite boîte de ce groupe parce qu'il me valorise et que... voilà.
Jean-Philippe, tu sais préparer la synthèse en 5 minutes de la journée. Ok, je vais vous donner la parole à Raphaël en fait, et à Quentin, parce que Jean-Philippe il a il a une mission maintenant qui est de préparer en 5 minutes un peu une synthèse de cette journée. Moi, il y a différentes choses qui reviennent du groupe aussi que j'avais envie de ramener, qui seront peut-être plus davantage interrogées demain, qui sont les questions du message simple et clair, peut-être à mettre ou pas en parallèle avec la question aussi de l'esprit critique et du message positif. Voilà, je m'interroge aussi moi sur la question du qu'est-ce qui est un message positif et je reviens aussi sur cette question du qu'est-ce qui est sécurisant. Est-ce que c'est le contenu de ce qu'on apporte ou est-ce que c'est la qualité de la relation et la qualité du cadre que l'on crée ? Est-ce qu'on peut créer des cadres suffisamment sécurisés que pour pouvoir aborder à l'intérieur de cela l'insécurité, y compris la nôtre. Voilà. Et je voulais. Je vais laisser Raphaël et Quentin dire leur mot de clôture.
Merci Vincent. J'étais ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'imagine que j'en ai bousculé déjà quelques-uns, donc je ne vais pas appuyer trop sur le bouton. De cette petite table ronde, j'ai quand même deux choses sur lesquelles je voulais revenir et je pense que c'est vraiment très important. D'abord, la première chose, c'est l'importance du storytelling dans la complexité. Pour faire sens de la complexité, il faut raconter des histoires ou transformer cette complexité en quelque chose d'intelligible.
Et c'est le sens du petit conte que Vincent vous a proposé tout à l'heure. Pour faire sens des choses, c'est vraiment les transmettre de manière un peu artistique. Et peut-être que c'est ça qui manque au mouvement environnemental de manière générale, c'est faire rêver. Et on voit dans le mouvement de la transition, notamment importé par Rob Hopkins, que c'est vraiment cette idée-là, faire rêver à travers des belles histoires, des futurs souhaitables. Certes, sans pétrole et dans un climat instable, ce qui ne va pas être toujours très très gai, mais ou très joyeux, mais par contre, chaque petit pas, eh bien, on peut le célébrer d'une manière ou d'une autre, en racontant des histoires, en mettant quelque chose d'autre que la raison sur le sens d'une action. Et ensuite, faire la différence, donc ça c'était mon premier point, storytelling, première chose très importante pour parler de complexité. Et deuxième chose, l'intuition et les émotions. L'intuition et les émotions, c'est deux choses différentes. L'intuition est un mode cognitif complémentaire à la raison. Et les émotions, donc l'intuition permet notamment d'avoir une idée du futur. Et les émotions, c'est quelque chose d'un ressenti du présent. Et donc ces émotions, nous ce que nous proposons en fait, ce que je propose, c'est en fait de les accueillir quand on parle de l'effondrement de la civilisation industrielle. Au lieu de mettre ces émotions sous le tapis, au lieu de les rejeter en disant « on a peur de faire peur, on n'a pas envie de traiter de la colère, on n'a pas envie de traiter du sentiment d'impuissance », eh bien de les accueillir avec bienveillance et d'en parler, de créer un cadre sécurisé pour accueillir ces émotions. Et en fait, quand on parle de toutes ces émotions, on se rend vite compte qu'on arrive à un processus de deuil. Le déni, la colère, le sentiment d'impuissance, et puis on accepte, et puis on passe enfin à quelque chose, on va de l'avant en tout cas. Et donc ça pour moi c'est le point sans doute le plus important du message que j'essaye de transmettre. Merci.
Alors Quentin, on est un peu plus court que Raphaël.
Je vais essayer. Mais puisque la demande c'est de bousculer, et puisque mais manifestement vous êtes ici dans un cadre sécurisé, un cadre de confiance, un cadre relationnel qui vous permet peut-être de mettre les choses sur le tapis avec l'invitation que Raphaël vous fait également. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Puisqu'on parle de carte du monde des publics auxquels vous vous adressez, bien évidemment, chacun d'entre nous a sa propre carte du monde, vous avez la vôtre. Et qu'est-ce que vous êtes prêt à déconstruire de votre propre carte du monde et à reconstruire pour faire évoluer vos dispositifs avec les enjeux d'aujourd'hui.
Merci. Je vais laisser le mot de clôture à Jean-Philippe, et puis il y aura quelques informations logistiques et puis quelque chose de complètement différent que Gilles va vous proposer.
J'aime vraiment bien ta question, Quentin. Parce que je voulais poser presque la même, mais elle est un tout petit peu différente, et à mon avis, elle se complète bien. Donc tu disais, qu'est-ce que vous êtes prêt à déconstruire de votre propre carte du monde. Donc, c'est une question qui sera bien utile que chacun d'entre nous puisse se poser. Et j'ajouterais, qu'est-ce que vous êtes prêts, qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter de la carte du monde des personnes qu'on rencontre? C'est-à-dire, est-ce qu'on donne aussi le droit à ces personnes de pouvoir n'en avoir rien à caler de toutes les questions qui nous rassemblent aujourd'hui? Ont-elles le droit ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire... Vous avez peut-être deviné. De plus en plus, je me dis qu'on a peut-être aussi, pour être là, on a peut-être aussi comme rôle de soigner les personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire que... si c'est pour arriver avec des discours qui vont nous rendre tous encore plus mal, à quoi bon? Je me fais l'avocat du diable, évidemment, vous avez bien compris. Hein. Finalement, à quoi bon? si nous sommes tous des êtres humains, on pourrait avant tout avoir comme envie de pouvoir soigner les relations et soigner nos manières d'être les uns avec les autres. Et que peut-être que si on ne fait pas ça, on n'arrivera à rien. Et c'est peut-être ça, fondamentalement, ce qui pêche dans nos pratiques, mais je crois de manière plus générale dans la société occidentale contemporaine. Sinon, conclusion, j'ai passé une chouette après-midi, vous aussi, j'espère. Grand merci.
Vous pouvez les applaudir tous les trois. Merci.